Ligne noire sur toile blanche, tout l'univers de la musique de film, ce soir spécial Francis Ford Coppola. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Ligne noire sur toile blanche, l'émission qui regarde le cinéma avec ses oreilles. Et ce soir, je vais vous faire une spéciale de Francis Ford Coppola, puisque notre partenaire, les cinéastes, ont l'heureuse initiative de projeter le lundi 22 décembre prochain le film Outsiders à 18h30. Alors pourquoi je précise les horaires? Parce que c'est une séance unique. Donc si vous voulez voir ce film donc, de 1983 de Francis Ford Coppola, n'hésitez pas, parce que ce sera la seule opportunité de le voir sur grand écran. Et du coup, au vu de la carrière prestigieuse de ce cinéaste, mais surtout des nombreuses musiques remarquables qui ont pu être composées pour lui, j'ai décidé voilà, de faire une petite incursion dans son domaine de cinéma avec, bien évidemment, un premier film qui est The Outsiders, dont la musique a été composée par Carmine Coppola, qui n'est autre que son père. Voilà, je vous passe tout de suite le premier extrait et j'aurai l'occasion d'en parler un petit peu juste après. Je vous ai laissé jusqu'à l'accord final de ce morceau tiré de The Outsiders, de Francis Ford Coppola, qui va être notre fil conducteur de ce soir sur Radio Alpa. Donc je vous le disais, la musique a été composée par Carmine Coppola, qui est son père, qui est donc un excellent musicien et également un excellent compositeur, avec lequel il aura l'occasion de faire d'autres films. Donc j'ai d'abord commencé d'ailleurs par faire quelques petits extraits de ce qu'il a pu composer, avant de vous faire passer des extraits d'autres compositeurs non moins célèbres. Juste aussi pour préciser que Francis Ford Coppola aime bien mettre en scène ou utiliser des membres de sa famille et nous aurons l'occasion d'y revenir dans quelques instants. Tout de suite, on enchaîne avec le grand classique de Francis Ford Coppola, mais je ne devrais pas dire le grand classique parce qu'il y en a tellement qu'il va être difficile de ne pas utiliser cet adjectif pour l'ensemble de la filmographie de Coppola, qui est Apocalypse Now, qui a marqué complètement l'histoire du cinéma, avec notamment une réutilisation de la chevauchée des Valkyries et un certain nombre de scènes parfaitement cultes qui ont été réutilisées dans bon nombre de films ultérieurs. Alors, ce n'est pas ce chevauché des Valkyries que je propose d'écouter ce soir, ni même la célèbre chanson This is the End des Doors, même si vous allez pouvoir voir que Carmine Coppola utilise un petit peu l'orchestration des Doors pour ce premier thème, que je vais d'ailleurs lancer dès à présent parce qu'il commence de manière un petit peu tranquille. Voilà, donc c'est Carmine Coppola qui va. On est pas tout à fait dans le même lyrisme du morceau précédent qu'on a pu avoir, au vu du traumatisme qu'est Apocalypse Now. On est beaucoup plus sur une musique d'ambiance que je vous laisse découvrir maintenant. Un film culte chasse l'autre. Je vous propose donc maintenant de reprendre donc une autre film extrêmement célèbre de Francis Ford Coppola, qui est bien évidemment Le Parrain, et plutôt Les Parrains, puisqu'il y a eu une trilogie qui a été réalisée, dont la première version a été composée à la musique par Nino Rota. Mais pour l'épisode 2 et l'épisode 3, c'est Carmine Coppola qui a pris la succession, en bien évidemment réutilisant les thèmes archi-célèbres de Nino Rota, à tel point qu'ils sont souvent crédités tous les deux sur ces deux films. Donc c'est un extrait du Parrain 2 que je souhaite mettre en place, parce que je voulais mettre un petit peu Carmine Coppola à l'honneur, avec le générique de fin, qui a l'avantage de reprendre un petit peu un certain nombre de thèmes très célèbres du Parrain. Voilà, on est dans le côté... très connu de la musique de film, mais ça fait plaisir un petit peu d'avoir de grands classiques. Je parlais donc tout à l'heure de l'utilisation de la famille par Francis Ford Coppola. Eh bien, il faut savoir que Sofia Coppola, sa fille, joue dans Le Parrain 2. Alors, elle est encore toute petite, c'est un nourrisson, on ne la voit à peine, mais par contre, dans Le Parrain 3, on la verra beaucoup plus, puisqu'elle aura un rôle plus important. Et je n'ai pas besoin de préciser, je pense que Sofia Coppola, depuis, a fait une excellente carrière également en tant que réalisatrice, et qu'elle prouve qu'elle n'a pas du tout démérité par rapport à son nom célèbre. Mais nous aurons peut-être l'occasion un jour, qui sait, de faire une spéciale Sofia Coppola. En l'occurrence, je vous propose de rester avec Le Parrain, deuxième partie, le générique de fin.
Thank you.
Je ne peux plus résister à l'envie de vous laisser cet accord final qui clôt ainsi le deuxième volet du Parrain. J'ai oublié de préciser également que dans le Parrain, on trouve également Al Pacino et Robert De Niro. C'est le premier film où les deux monstres du cinéma se retrouvent ensemble à l'affiche, même si on ne peut pas vraiment dire qu'ils jouent ensemble, puisqu'on ne les verra sur le même plan qu'une seule fois. Continuons avec encore un autre grand film de Francis Ford Coppola, Dracula. En 1992, avec là encore de très grands acteurs, puisqu'on y trouve Gary Oldman, Winona Ryder, Anthony Hopkins, entre autres. Et la musique, voilà, ce n'est plus Carmine Coppola, on n'aura plus l'occasion de l'entendre lors de cette émission. C'est Wojciech Kilar, qui a composé un film basé à la fois sur des vocalises et un thème d'amour assez désespéré pour la relation entre Gary Oldman et Winona Ryder, mais qui a également utilisé, et c'est cet extrait-là que je vais vous passer, un morceau très scandé qui s'appelle Vampire Hunters, donc les chasseurs de vampires, et qui en fait a la particularité d'avoir tellement marqué l'histoire du cinéma qu'il est très régulièrement utilisé soit en parodie, soit en pastiche lors d'autres films qui font référence, mais également lorsqu'on veut mettre un peu de suspense dans les bandes-annonces, eh bien on va souvent recycler ce petit morceau de Wojciech Kilar. Sûr que même sans l'avoir référencé à Dracula, vous aviez déjà eu l'occasion d'entendre cette musique quelque part si vous avez l'occasion de fréquenter l'univers cinématographique. Voilà, je vais continuer avec un autre film magistral. J'ai arrêté d'utiliser ce genre d'adjectif parce que sinon je vais arriver à terme avant la fin de l'émission. C'est une palme d'or, Conversation secrète. Film qui a été réalisé en 1974 avec Gene Hackman notamment. Et la musique, c'est David Shire qui l'a composé. Donc voilà, on voit que Coppola commence à changer régulièrement de compositeur, mais qu'importe, puisque le résultat est absolument, là encore, remarquable. David Shire prend le choix pour ce film, hein, qui est basé un petit peu sur la parano, bah, d'avoir justement un piano seul. Qui est utilisé de manière assez presque simpliste, on aurait tendance à dire, avec des thèmes répétitifs qui reviennent et qui introduisent le doute, l'inquiétude, le suspense, tout comme le fait Gene Hackman dans son interrogation en disant « Est-ce qu'il est parano ou est-ce qu'il a réellement entendu quelque chose ?» Le film « Conversation secrète » fait bien évidemment également référence au fameux blow-up de Michelangelo Antonioni, voilà, qui parlait cette fois-ci non pas d'un enregistrement sonore, mais de photographie. Voilà. Et donc, je vous propose tout de suite d'entendre ce thème principal de Conversation secrète de David Shire, qui, je pense, ne doit pas non plus vous être totalement inconnu. L'extrait de Conversation secrète, le petit piano entêtant de David Shire. Continuons avec un film de Francis Ford Coppola qui n'a pas réalisé seul, puisqu'il l'a réalisé en collaboration avec Wim Wenders. C'est Hamet, en 1982, qui est une enquête policière un petit peu sombre, où Hamet, l'auteur, joue le rôle également de l'enquêteur. Et qui est un hommage également, enfin pas tout à fait un hommage, puisque c'est pas tout à fait la même histoire, mais en tout cas c'est la même ambiance du fameux Chinatown de Polanski. Alors, Ahmet, Francis Ford Coppola s'est attitré les services de John Barry, avec qui il aura l'occasion de faire d'autres films. Je reviendrai un petit peu plus tard sur une autre collaboration, mais je voulais juste faire un petit aparté sur Cotton Club également, en 1984, dont je ne vous passerai pas d'extrait, puisque la musique de Cotton Club, il faut bien l'avouer, est quand même davantage celle de la musique, enfin des chansons qui sont utilisées dans ce fameux cabaret, plutôt que de la musique d'accompagnement, même si John Barry, comme d'habitude, fait une musique magistrale. Donc là, voilà, je vais rester un petit peu sur Ahmet pour le moment, pour un petit extrait, le thème principal, avant de vous présenter une autre collaboration fructueuse entre Barry et Coppola. Piano légèrement groovy et nostalgique de John Barry pour le film Ahmet. Donc restons avec John Barry, comme je vous le disais, puisqu'il y a une autre collaboration qui a eu lieu entre Coppola et Barry. C'est Peggy Sue s'est mariée en 1986, film dans lequel Coppola explore un film un petit peu dans le voyage dans le temps, puisqu'on y suit Peggy Sue, donc qui s'est mariée, comme son nom l'indique, et qui retourne dans le passé. À l'époque où elle ne l'est pas encore et où elle va pouvoir essayer de voir si elle peut changer sa vie puisqu'elle n'est pas satisfaite de sa situation actuelle et de voir si maintenant qu'elle connaît l'avenir et ce qu'il lui réserve, est-ce qu'elle peut devenir maîtresse de son destin. Donc si sur le film Ahmet, voilà, on est dans le film noir, donc John Barry a utilisé toutes les facettes un petit peu caricaturales, j'aurais tendance à dire, de ce type de musique. Eh bien, dans Peggy Sue, on est vraiment dans le film romantique et John Barry, qui s'en est fait l'un des chantres, là aussi utilise une musique particulièrement caractéristique de son style. Je vous laisse juger par vous-même. Le romantisme et le voyage dans le temps de John Berry, et je vous propose tout de suite de faire une confrontation du romantisme et du voyage dans le temps, plus avec John Berry, mais avec Osvaldo Golijov, j'espère que je le prononce bien, pour le film L'homme sans âge, Youth Without Youth, dans son titre original, qu'a réalisé Francis Ford Coppola en 2007 avec Tim Roth pour le rôle de ce personnage, voilà, qui ne vieillit plus vraiment et qui va essayer de retrouver le grand amour de sa jeunesse. Donc voilà, je pense que vous avez encore un petit peu ce thème particulièrement romantique de Peggy Sue dans la tête. Eh bien, confrontez-le avec le thème de Golijov à venir de suite. J'aime bien faire un petit peu des comparatifs comme ça, des musiques de différents, comment dire, compositeurs différents, mais pour un même réalisateur. Donc vous avez pu quand même voir que même si l'orchestration n'est pas du tout la même, il y a quand même de quoi pouvoir faire une petite comparaison entre ces deux morceaux. Donc voilà, changement radicalement de registre maintenant avec The Rainmaker, l'idéaliste en français, film réalisé en 1997. Avec Matt Damon et Danny DeVito, où c'est l'histoire d'un jeune avocat qui est encore en études et qui va, du coup, pour sa première affaire, se confronter à une grande compagnie d'assurance pour une sorte de lutte contre une arnaque à l'assurance, un peu le David contre Goliath. Et pour ce film, Coppola a décidé de faire appel à Elmer Bernstein, qui a composé une musique assez urbaine et un petit peu jazzy, même si le passage que je vais vous faire passer ne l'est absolument pas. Voilà, mais c'est donc une musique d'ambiance un petit peu qu'il aime particulièrement. Donc voilà, c'est une adaptation du livre de John Grisham qui a écrit pas mal de livres qui sont passés sur le grand écran. C'est au tour cette fois-ci de Coppola. Thank you. Le petit extrait d'Elmer Bernstein pour le film L'Idéaliste, réalisé donc par Francis Ford Coppola, puisque c'est notre fil conducteur de ce soir dans le cadre de Ligne Noire sur Toile Blanche, sur Radio Alpa, bien évidemment. Voilà, j'avais fait juste une petite parenthèse bernsteinienne avant de revenir à Osvaldo Golijov, puisque en fait, les derniers films qu'a réalisé Coppola ont tous été mis en musique par ce compositeur. Donc j'ai cité tout à l'heure et je vous ai fait écouter L'Homme sans âge, mais il y a eu également Twix et Tétro, deux autres films qui ont été mis en musique par Golijov pour le compte de Coppola. Et le dernier film en date, qui est Mégalopolis, est également de son cru. Donc Mégalopolis, c'est qui raconte voilà, une histoire, plusieurs histoires d'ailleurs bien imbriquées et un petit peu complexes sur une personne qui va chercher à bâtir une nouvelle Rome. Ce qui est assez intéressant puisque Golijov a du coup décidé de partir sur une musique de type clairement peplum, alors qu'on est sur l'Amérique des temps modernes. Donc vous allez pouvoir voir dans l'extrait que je vais vous passer dans quelques instants effectivement ces cuivres caractéristiques. En attendant, eh bien, tout simplement, le dernier film et le prochain film de Coppola, The Glimpses of the Moon, dont je ne sais pas encore qui sera le compositeur. Est-ce que ce sera encore Osvaldo Golijov? Eh bien, attendons de le voir sur les écrans pour pouvoir nous en rendre compte. En l'occurrence, pour le moment, retournons donc sur son film précédent, Mégalopolis, avec, comme je vous le disais à l'instant, les cuivres de la Nouvelle Rome.
Thank you.
Bienvenue dans la nouvelle Rome de Francis Ford Coppola. Nous arrivons au terme de cette émission et comme j'ai passé beaucoup de temps à dire tout le bien que je pensais de ce réalisateur et de tous les chefs-d'œuvre qu'il a pu concocter, j'ai décidé pour finir un dernier extrait, faire un petit pied de nez et de revenir au tout début, à l'époque où Coppola n'était pas encore connu et où il devait faire des films un peu plus commerciaux pour réussir à se faire un nom, puisqu'en 1962, il a réalisé cette même année Tonight for Sure d'une part et The Bellboy and the Playgirls d'autre part, qui sont des films, appelons-les plutôt coquins. Et en 1963, deux autres films qui, eux, entrent plutôt dans la catégorie des films horrifiques, L'Halluciné, avec notamment Boris Karloff, et Dementia 13, avec William Campbell. Et c'est sur ce dernier film que je vous propose de finir ce spécial donc Coppola. Dementia 13, donc c'est Ronald Stein qui a composé la musique, musique plutôt de qualité, sinon je ne vous la diffuserai pas bien évidemment, et qui a fait pas mal de films un petit peu de ce style, avec quelques films d'invasion, quelques films, d'autres films d'horreur, etc. Quelques films aussi de guerre ou des films de suspense, donc c'est un compositeur qui mérite d'être découvert puisqu'il est un petit peu passé aux oubliettes. Et donc je vous propose, pour terminer cette émission donc spéciale Coppola, de terminer avec le thème principal de Dementia 13 de Ronald Stein. Ligne noire sur toile blanche. Le choix de l'auditeur. Voilà, après ces quelques musiques, un petit peu de clavecin horrifique, nous arrivons donc sur notre choix de l'auditeur traditionnel qui nous permet de clore avec un style complètement différent. Vous allez pouvoir encore vous en rendre compte cette fois-ci. Notre émission Ligne Noire sur Toile Blanche. Et je vous rappelle que si vous aussi vous voulez proposer des morceaux, n'hésitez pas. Envoyez-moi donc un petit message sur les réseaux sociaux que vous trouverez donc l'adresse sur la page de l'émission. Donc Ligne Noire sur Toile Blanche. J'en profite pour rappeler que sur la page de l'émission, vous avez également les podcasts de toutes les émissions précédentes. Et vous pouvez également m'envoyer un mail à lntbalpa@gmail.com, lntb pour ligne noire sur toile blanche, bien évidemment. Et je suis particulièrement content de ce choix de l'auditeur, puisqu'en fait, c'est Jean-Claude Rouquet qui m'a écrit pour me proposer donc, le morceau que je vais vous passer tout à l'heure. Jean-Claude Rouquet, pour les aficionados et de Radio Alpa et de la musique de film, eh bien, c'était l'ancien animateur de l'excellente émission Musique d'étoiles, donc, à laquelle j'ai succédé. Alors, je précise que c'est absolument un hasard, mais n'empêche que voilà, je voulais lui rendre un petit peu hommage parce qu'il a fait un excellent travail et comme il le dit lui-même, la musique de film n'est pas assez diffusée sur les ondes, donc je suis ravi de pouvoir continuer à prolonger son héritage. Donc le film qu'il nous propose de diffuser ce soir, c'est Le Dernier Combat de Luc Besson, qui est donc le premier long métrage de Luc Besson en 1983. Et la musique est déjà signée d'Éric Serra. Pourquoi déjà ? Parce qu'Éric Serra et Luc Besson, c'est encore une fois un tandem qui fonctionne bien, puisque quasiment tous les films de Besson ont été mis en musique par Serra. Tous à l'exception de Angela, Valérian, Dracula, voilà, il a fait son Dracula lui aussi, dont la musique d'ailleurs a été faite par Danny Elfman, grand nom également du cinéma hollywoodien, et également June and John et Malavita. Voilà, j'ai fait une petite choix des films qui n'ont pas été mis en musique par Serra. Tous les autres, à commencer par le très 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 célèbre Le Grand Bleu, ont été mis en musique par Serra, qui est quelqu'un qui est d'origine plutôt de la pop, puisqu'il a d'ailleurs un groupe avec lequel il a composé pas mal de films où il chante lui-même. D'ailleurs, sur certains films, on pense par exemple au Cinquième Élément, où dans le générique de fin, il a mis une petite chanson de son cru qu'il entonne lui-même. Donc, sur ce film, on entendra totalement sa palette électronique, puisque le morceau proposé par Jean-Claude Rouquet, c'est L'Envol, que je vous mets tout à l'heure. Mais grâce à Luc Besson, Serra a travaillé énormément la composition et l'orchestration, et il peut maintenant, sans aucun problème, mettre en musique des grandes partitions orchestrales, voilà, comme on peut l'entendre sur les derniers films plus récents de Luc Besson. Mais pour l'heure, je vais vous revenir donc aux origines. Le Dernier Combat, Besson, Serra, L'Envol. la fin de cette émission. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous remercie de votre fidélité et je vous dis à la semaine prochaine.